Chers frères et sœurs, dans le Messie Jésus, ou Yeshua de son vrai nom, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Ô éternel notre Dieu, notre Père, c'est vers toi que nous nous tournons encore ce soir. Nous te remercions de nous avoir comptés parmi les vivants depuis ma position ici, Père. Je prie la paix pour tous les frères et sœurs avec lesquels je suis en contact, que tu les bénisses, que tu les gardes, même ceux-là que je n'ai même pas vu, que je ne connais pas le visage, mais nous nous connaissons puisque nous sommes en communion les uns et les autres par l'Esprit Saint. Ô éternel notre Dieu, je te prie de les garder, de les bénir. Et qu'à l'écoute de ce message, Seigneur Père, que cela puisse nous fortifier davantage, afin que nous puissions mieux te connaître, toi le seul vrai Dieu, ô éternel notre Dieu. Permets que nous puissions te connaître à travers notre Messie, ton Fils que tu nous as donné, ô éternel notre Dieu. Donne-nous la grâce de le connaître. Tu as dit dans ta parole que la vie éternelle, c'est que nous te connaissons, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as donné pour notre salut, Yeshua le Messie. Qu'il en soit ainsi. Élève-le encore à travers cette étude, en fait que nous puissions être attirés à lui pour mieux le connaître et mieux te connaître, toi le Père Tout-Puissant. Père, je prie la paix que tu guérisses les malades. Et que tu pourvois aux besoins des uns et des autres. Je ne connais pas leurs besoins, mais toi tu le sais, tu le connais, ô éternel des armées. Je te supplie la paix, mais la seule demande que je formule pour tous les frères et sœurs en Christ, ou bien dans le Messie, c'est qu'ils puissent te connaître à travers le Messie. Que de jour en jour, ils puissent connaître Jésus, ils puissent connaître Yeshua tel qu'il est. Réellement, Seigneur, et non l'image que la religion nous a mise dans la tête, ô éternel notre Dieu, la paix. Fais-le et que toute la gloire te revienne. Si nous le connaissons tel qu'il est, alors nous ne tremblerons plus devant aucune situation. Et c'est ce que lui-même a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout nous sera donné par-dessus. Qu'il en soit ainsi, que cette parole, Seigneur, fasse un impact plutôt dans notre vie, dans la vie de tous les frères et sœurs qui vont écouter ce message. Je te loue pour cela, je te glorifie parce que tu es Dieu, parce que toi tu ne choues jamais et tu ne manges jamais. Ce que tu as dit, tu le fais. Amen et amen. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2022, la guerre en Ukraine continue, l'épidémie de coronavirus est toujours là, même si c'est en décru, l'épidémie est en décru ici en France, et c'est en décru quand même. Le variant qui circule, c'est toujours le variant Omicron, qui est très contagieux, mais moins virulent. Voilà, donc nous remercions le Seigneur pour cela. Oui, j'aimerais aujourd'hui aborder quelque chose, voilà, dans le Nouveau Testament, un message que j'ai intitulé « L'échange de vie où la vie est changée ». Oui, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, bon, je ne vais pas dire cela, ne comprennent pas ce que le Seigneur, le Messie Yeshua est venu faire. Il est venu échanger sa vie contre la nôtre, au fait. C'est pourquoi je parle de la vie échangée. Et cela ne s'est pas simplement passé sur la croix, mais cela s'est passé même avant qu'il aille à la croix. Voyez, ce qui allait se passer sur la croix, c'était passé durant son procès. Et nous devons faire attention à cela. J'aimerais revenir sur l'histoire de Barabbas, l'échange que le peuple, ou bien que les dirigeants de l'époque, les religieux de l'époque, ont fait entre le vrai Messie et le faux Messie, qui est Barabbas. Et cela va encore se passer. encore à la fin des temps, puisque beaucoup de gens vont aller vers l'anti-messie qui apparaîtra le premier, puisque dans les quatre cavaliers de l'Apocalypse, nous avons vu qu'il y avait un cheval blanc avec un homme assis dessus. Une couronne lui a été donnée et il est parti en vainqueur. Il avait un arc, mais sans flèche. Il est habillé en blanc. Voyez, il est tout le temps dans la séduction. Il ne va pas brutaliser les gens. Il ne va pas leur tirer. Il ne sera pas, mais il va les séduire. Il a son arme, hein. Il a un arc, il aura une arme, mais pas de munitions dedans. Mais il va séduire, il est parti en vainqueur pour vaincre. Il va séduire le monde en disant qu'il est le vrai Messie. Oh, le vrai Messie a une épée parce qu'il est venu pour juger. Il n'est pas venu pour séduire la terre, il est venu pour juger parce qu'il était déjà venu pour exhorter l'humanité à se repentir, à se tourner vers le vrai Dieu. D'accord, nous allons lire notre texte de vie échangée dans Matthieu. Mais si nous voyons dans l'évangile, dans les quatre évangiles, il y a des complémentarités parce que tous n'ont pas rapporté les mêmes choses, ou bien voilà, tous n'ont pas rapporté. Donc, on trouve des compléments d'informations dans les quatre évangiles. Voilà, si c'était aujourd'hui, les gens vont se disputer, vont dire, ah oui, puisque Luc n'a pas dit ça, donc Luc n'est pas dans le vrai, puisque Marc n'a pas dit, oh mes frères. Hein, voilà, donc les gens vont encore se disputer sur ça, si c'était ici, hein, si c'était nous sommes encore aujourd'hui, si ces apôtres vivaient aujourd'hui, les gens vont vouloir semer le trouble parmi eux aujourd'hui. Mais chacun a rapporté quelque chose. Ils n'ont pas tous rapporté les mêmes choses, mais on trouve des compléments un peu partout. Donc, je vais d'abord lire dans Matthieu 27, qui sera là-bas, du verset 11 au verset 26 et du verset 27 au verset 31. Oui, là, peut-être qu'on lira après si on a le temps, du verset 11 au verset 26. Je lis dans le second, bien, je vais lire dans Second 21. Yeshua comparut devant le gouverneur. Si je dis Yeshua, c'est Jésus, hein, comme vous le savez maintenant. Celui-ci interrogea. Bon, ici, le nom du gouverneur, Pilate, ça a été nommé après. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. Alors Pilate dit, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Il avait alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Yeshua qu'on appelle le Messie ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « N'ai rien à faire avec ce jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent alors la foule de demander Barabbas et de faire mourir Yeshua. Le gouverneur prit la parole et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Il répondit, « Barabbas. » Pilate répliqua, « Que ferais-je donc de Yeshua qu'on appelle le Messie ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur, et cria à plus fort qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde ?» Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Voilà, si vous allez dans d'autres évangiles, dans l'évangile de Luc, vous trouverez que ils avaient accusé Jésus de sédition, de semer le trouble parmi le peuple, qu'il interdit de payer de l'impôt au gouverneur. C'est dans Luc 23, déclarant qu'il est le Messie. Hein? Donc, voilà des accusations comme ça. Or, vous savez que l'Empire romain, comme on dit là, l'Empire romain avait un souci, puisque l'Empire était très grand. Donc, le gouvernement central ne pouvait pas laisser un grand nombre de soldats dans chaque colonie. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que il est demandé à tous les gouverneurs de tout faire pour maintenir la paix. De tout faire par des alliances, par des intrigues, même pour éliminer des rivaux, éliminer telle personne qui veut semer le trouble, par la corruption, on maintient la paix. Et ça se fait encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Hein. On maintient la paix par la force, par la peur, par les tueries et par toute autre chose. On veut maintenir la paix à tout prix. Donc la crainte de tout gouverneur, c'est le soulèvement des peuples. Hein? C'est ça. Il faut maintenir à tout prix la paix pour garder son poste. Hein? Pour garder son poste. Et c'est ce que Pilate a fait. Même s'il ne trouvait rien de culpabilité, de coupable, de culpabilité, c'est chez le Seigneur Yeshua, il l'a quand même envoyé à la mort. Or, c'est selon ce qui s'est accompli, non? Puisque Jésus même a dit que, voilà, ils ont à Jérusalem où les prêtres et les grands du peuple d'Israël vont le livrer aux païens pour être crucifiés, vont le livrer aux goy, aux nations, aux païens pour être crucifiés. Donc la prophétie est déjà là. Et selon Ésaïe 53 aussi, on l'a amené à l'abattoir comme un agneau muet. On l'a amené. Donc Pilate ne pouvait pas s'opposer au grand du peuple, d'autant plus que ces religieux avaient même appelé à César. Vous voyez, ils ont manipulé Pilate, mais Pilate n'est pas non plus un saint, hein? Parce que en Éthiopie, par exemple, vous verrez dans certaines églises que Pilate se trouvait parmi les saints, parce que il s'est lavé les mains pour dire que, ok, moi je m'en lave les mains, je vous livre Jésus, alors qu'il a le pouvoir de relâcher Jésus. S'il avait décidé de relâcher Jésus, il pouvait le faire, mais il avait peur pour son poste. Parce que s'il y a un soulèvement, c'est lui qui va sauter et peut-être condamné à mort. Vous voyez? Donc ces prêtres-là n'ont pas accusé Jésus de blasphème. Non, ils ne peuvent pas parce que la loi romaine, non. Ça ne vaut rien devant la loi romaine. Aujourd'hui, quand vous allez au tribunal, même ici, puisque c'est l'Empire romain, l'influence de l'Empire romain qui continue ici en Europe, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi contre le blasphème. Il n'y a pas de loi. Vous allez au tribunal, vous serez débouté. Ouais, vous serez débouté. C'est encore aujourd'hui. Donc, la seule façon pour amener Pilate à condamner le Seigneur Yeshua, c'est de l'accuser de sédition, de semer le trouble, de ne pas obéir à l'empereur, de refuser de payer des impôts à l'empereur. Et si Pilate ne s'exécutait pas, et si ça arrive à Rome, c'est lui qui saute ou bien c'est lui qui va mourir, qui sera condamné. Ouais, vous comprenez maintenant comment les grands du peuple, les religieux ont manipulé. C'est pas tout le peuple, parce que lorsque le Seigneur Yeshua est rentré dans Jérusalem, le peuple juif dans son ensemble l'a acclamé. Il avait des disciples donc on ne peut pas accuser les juifs d'avoir tué Jésus comme ça a été, même jusqu'à maintenant. Or, la crucifixion, c'est une punition romaine. La punition, c'est une punition romaine. Je répète, c'est pas une punition juive ou bien hébraïque. C'est une punition romaine. Donc, c'est les Romains, c'est les païens, c'est nous, les nations, en complicité, c'est toute l'humanité, en somme, qui a amené à la mort, qui a comploté, qui a amené à la mort du Seigneur Yeshua. Mais il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas oublier. Le Seigneur Yeshua, Jésus lui-même a dit que personne n'ôtre sa vie. Il la donne en rançon pour nous tous, pour toute l'humanité, malgré le complot que les hommes, l'humanité a fait avec les religieux. Vous voyez, une religion, la religion sans vision, voilà ce que ça amène. Une religion qui n'a pas de vision a condamné le Messie qui est venu les sauver. Ils se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied. Ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assises. Comprenez? C'est ça. La religion est aveugle. La religion ne mène pas au vrai Dieu. Hein? La religion ne mène pas au vrai Dieu. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, Pilate avait le pouvoir, mais il n'a pas voulu. Il a suivi. Il a été sous influence parce qu'il avait peur pour son poste. Il avait peur de soulèvement. Il avait peur de que le peuple se retourne contre lui. Donc, il a préféré condamner l'innocent et libérer le coupable. Beaucoup de gens le font aujourd'hui. Même aujourd'hui, je vais faire une parenthèse. Le monde condamne. Le monde autorise l'avortement. Même dans certains pays jusqu'au 9e mois. Hein? Mais les criminels, ceux qui tuent, qui violent, qui font des crimes abominables, voyez, on les condamne pour peu d'années. Et ils sortent, ils récidivent encore. Vous comprenez? Alors que l'enfant qui n'est même pas encore né, huit, on dit, on met une épée de Damoclès sur sa tête. Si des adultes ne veulent pas avoir d'enfants, qu'ils prennent des précautions. Et puis c'est bon. Qui prennent des précautions, parce que l'enfant, c'est les deux adultes qui l'ont amené, il n'a pas demandé à venir. J'ai entendu des histoires vraiment absurdes, quoi, où on reproche à l'enfant sa naissance. Ah oui, t'es pas désiré, tu ne dois pas être là, même on dit ça. Tu es pas désiré, tu es venu par accident. C'est qu'est-ce qu'il y a? Et on l'abandonne. Il y a même des parents qui ont abandonné leurs enfants et ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Ou bien ils l'ont élevé, ils l'ont détesté. Ils lui ont même dit ne viens plus me voir. Ok, fini. Tu as grandi, c'est fini. Je veux plus entendre parler de toi. Il y a des histoires que je ne peux pas vous raconter parce qu'il y a le secret médical, des choses comme ça. Je peux pas. Vous comprenez? Voilà, il y a vraiment de ces histoires-là. Tu te dis, mais où est-ce que nous sommes, quoi? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est, quoi? Vous voyez, c'est une parenthèse. Mais ici, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Pilate, faible devant le peuple, vous voyez, faible devant la pression des grands prêtres et de tous leurs affidés, de tous leurs fans, parce que tout le peuple n'était pas dans le prétoire. Tout le peuple ne peut pas tenir. Selon les estimations, 200 personnes. 200 personnes, c'est pas tout le peuple d'Israël. Voilà. Donc, voilà. Et le jour-là, comme c'est le jour de Pâques. C'est vrai que les gouverneurs, les chefs d'État, la tradition est encore là aujourd'hui, à la veille des fêtes nationales. On gracie à tout vent, on soulage, on diminue les peines des prisonniers, on fait un geste magnanime, voilà, pour montrer que c'est eux qui en détiennent l'autorité, mais ils n'ont aucune autorité déléguée. Ok, puis il a dit, ok, comme c'est la coutume, je vous demande de choisir entre le prisonnier célèbre nommé normalement le nom de Barabbas, 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 Bar, c'est en araméen, Bar, fils, Abbas, Abba, père, papa, fils d'un père, Bar, Abbas, fils d'un père. Mais ce Barabbas, vous voyez dans certains manuscrits, Barabbas, au fait, s'appelait aussi Yeshua. Yeshua, Barabbas, Yeshua, fils d'un père, et Yeshua, le Messie. Yeshua HaMashiach, le Messie. D'accord? Donc, il y avait deux Yeshua qui étaient là. Deux Yeshua qui étaient là. Et le peuple devait choisir. Mais c'est comme aussi ce tirage au sort, le jour de Kippour, n'est-ce pas? Il y avait deux boucs. Un bouc pour Azazel qu'on envoie dans le désert, et un bouc pour le sacrifice d'expiation. Pour le sacrifice d'expiation. Voilà. Et le bouc de l'Éternel, c'est le sacrifice d'expiation. Voilà, c'est Yeshua, le vrai Yeshua. Qui était Barabbas, qu'on appelle Jésus Barabbas ou Yeshua Barabbas. C'était un brigand, c'était un faux messie. C'est lui. Il s'est déclaré messie pour libérer le peuple aussi. Il a commis un meurtre, il avait d'autres personnes avec lui, ils ont semé des troubles. Donc il a été condamné pour ça. Il devait être condamné à mort et crucifié. C'était un brigand, un séditieux. Hein, d'accord? C'est un criminel, un brigand, un rebelle, un voleur. C'est ça. Et c'est ce qu'il était, un faux messie en somme. Il s'est soulevé en disant qu'il était le messie. D'accord? Voilà. Fils d'un père. Yeshua Barabbas. Et le peuple a préféré ce brigand, a préféré le faux messie au vrai messie qui est venu libérer. Vous savez, il est vraiment intéressant de voir que le peuple a choisi plutôt un brigand, un séditieux, un homme obscur, un voleur, qui leur promettait la libération par les armes, par la violence, par la tuerie, par la rébellion, que le vrai Messie qui leur promettait un retour à Dieu, un retour à Dieu par la repentance. Et c'est ce que font beaucoup. Beaucoup de personnes aujourd'hui choisissent plutôt le monde que de choisir le vrai Messie. Ouais, le vrai Messie nous préserve du jugement à venir et c'est ce que Yeshua, le Messie, le vrai, a proposé au peuple. Hein? Il voulait les sauver de la perdition éternelle. Oh, le peuple, poussé par les grands prêtres qui étaient jaloux au fait du Messie parce que le Messie n'était pas de leur groupe, de leur obédience, n'était pas sous leur coupe. Ils ont voulu le manipuler, la voir sous leur coupe, mais non. Voyant cela, ils n'ont pas jalousie, ok. Ils l'ont condamné, mais en faisant cela, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Poussés par l'ennemi, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez? Et Yeshua aurait pu tous les balayer, suffit d'un seul ange pour les balayer, mais comme il dit, il donne sa vie lui-même en rançon pour le salut de l'humanité. Il a échangé nos vies, c'est des vies échangées. Nous sommes tous également des petits Barabbas. Nous sommes tous des petits Barabbas. Mais oui, nous sommes tous des petits Barabbas, n'est-ce pas? Fils du Père, Dieu étant le Père de la création. Et nous étions tous créatures de Dieu, dont on peut dire enfants ou bien fils de Dieu, entre guillemets, nous étions tous ça. Voilà. Et nous étions tombés tous en disgrâce par le péché. Le péché nous a éloignés de lui. Nous sommes tous des petits Barabbas, que Barabbas et Yeshua est venu échanger notre vie. Vous voyez, il a pris, ici Yeshua a pris la place de Barabbas. Barabbas était un criminel, un meurtrier, un séditieux. Vous voyez, il méritait la mort, il méritait la crucifixion, comme nous aussi. Nous, par le péché, l'humanité méritait la condamnation à mort, comme la Bible dit dans Romains. Oui, tous sont condamnés et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, le jugement du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et c'est ça que risquait Barabbas. Mais Yeshua est intervenu là-bas. J'espère qu'il s'était converti après, ce monsieur. Il est revenu, c'était comme... Je ne sais pas, je ne connais pas son histoire à la fin, mais j'espère bien. Voilà, nous étions tous des petits Barnabas. Et ceux qui sont aujourd'hui dans le monde, qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas se repentir, et se convertir, qui agissent, qui vivent comme Barabbas, qui veulent par leur propre force se sauver. Ouais, c'est ça, et sauver aussi les autres. C'est ce que cherchait à faire Barabbas. Il voulait se sauver par les armes, sauver le peuple par les armes, redonner la gloire à Israël, la gloire qu'Israël avait au temps de Salomon, au temps de David, par la force des armes. En négligeant le Seigneur. Vous voyez? En négligeant le Seigneur. Or, David avait la force armée. Excusez-moi. Mais il avait aussi, il avait le Seigneur avec lui. Dieu, l'Éternel, Dieu lui-même a dit qu'il était selon son cœur, un homme selon son cœur. Ouais. Alors que Barabbas a voulu faire quoi? Libérer le peuple par sa force, la force brutale, qui tue, qui pille, qui vole, qui fait du mal. Il veut se soulever une armée. Alors que Yeshua, non, leur disait, mais non, restez calme, laissez les Romains tranquilles. Vous revenez à l'Éternel. Répentez-vous et croyez à l'Évangile. C'est la première parole du Seigneur Yeshua, lorsqu'il est apparu, lorsqu'il a commencé son ministère. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il parlait à des Juifs qui connaissaient Dieu. Répentez-vous, revenez à l'Éternel Dieu. Revenez, parce que vous êtes égarés. Revenez, de la même manière. On peut le dire aussi aujourd'hui dans la majorité des assemblées, des assemblées chrétiennes, avec tous les scandales qu'on voit tous les jours, surtout dans les pays africains. Vraiment, c'est un scandale. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Mes frères africains, réveillez-vous. Vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Même ici aussi en Europe, réveillez-vous. Vous ne voyez pas que l'apostasie est en train de gagner du terrain? Ne voyez-vous pas que l'apostasie est en train de gagner du terrain, que l'argent est devenu le dieu de beaucoup, que les richesses sont devenues les dieux de beaucoup, hein? Et que maintenant, il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus la crainte de Dieu. Certaines personnes donnent, même pas. Il n'y a pas que les églises, il n'y a pas que les soi-disant églises ou les assemblées. Même parmi les chrétiens, l'Esprit nous a avertis que dans les derniers temps, les gens seront quoi? Égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Amis de l'argent. Aujourd'hui, on ne parle que de ça, on ne parle que de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Vous prêchez une parole de sainteté, de sanctification, vous ne trouvez personne. Vous demandez, venez, on va prier, on va jeûner, personne. Mais vous dites, il y a un prophète, il y aura des bénédictions. Donnez 1 000 euros, Dieu va vous retourner 100 000 euros. Les gens vont donner, venez acheter de l'eau bénite. Ça, on l'a commandé depuis Jérusalem, de l'huile d'olive depuis Jérusalem. Sanctifié. Mensonge, mensonge. Et les gens courent dans ces choses-là. Oh, oh là 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 là. Les gens courent dans ces choses. Yeshua est venu. Il a donné sa vie pour toi, mes frères, ma soeur, pour moi, pour toi. Il a donné sa vie pour nous. C'est ça, il a échangé sa vie. Nous étions tous des petits Barabbas. Nous voulons nous sauver par nous-mêmes, par notre propre force. Nous voulons nous en sortir, nous améliorer, améliorer notre caractère. Mais non, Yeshua est venu. Lui, le vrai Yeshua, qu'on a condamné, qu'on a oublié, qu'on a rejeté. Aujourd'hui, c'est pareil également. Mes frères et sœurs, Barabbas est un type d'anti-messie. C'est ça. Je l'ai écrit ça là, en méditant ce verset. Je l'ai écrit le 23 février 2018. Barabbas est un type d'anti-messie qui voulait libérer le peuple par la force, alors que le vrai Messie Yeshua donnait sa propre vie en sacrifice, en demandant au peuple de revenir à Dieu. Mais oui, de revenir à Dieu, de se repentir, de revenir à Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous devons tous revenir à Dieu. Nous devons tous. Si tu vois dans ta vie, tu verras que des choses qui ne vont pas. Moi, j'ai fait ma part, hein, mes frères et sœurs. Nous avons tous des lacunes, mais nous devons avancer. Nous devons chaque jour demander au Seigneur. Seigneur, guide-moi à entrer dans ta volonté, à faire tes œuvres. Mais oui, la seule volonté que moi je vois dans la parole de Dieu pour nous, c'est bien dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut, notre sanctification, mise à part de ce monde, mise à part de ce monde du péché. Se mettre à part, c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Être mis à part et marcher avec lui. Vous avez vu que dans la première alliance, l'Éternel Dieu Elohim s'est évertué à séparer Israël du reste des nations, en donnant des lois de séparation. C'est ça la mise à part, la sanctification. La sanctification ne veut pas dire, dans sa définition stricte, ne veut pas dire être moralement pur, hein. C'est être à part, mis à part du monde, mettre à part, sanctifier, c'est ça, réservé pour un usage saint, réservé. Après vient la pureté morale, mes frères et sœurs. Donc mettons-nous à part de ce monde en revenant à l'Éternel Dieu. De la même manière, quand nous quittons le monde et que nous venons à Dieu, nous sommes déjà à part. Et là, le Seigneur peut nous appeler, peut nous conduire, peut nous dire des choses. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent durant toute leur vie quelle est la volonté de Dieu pour moi, quelle est la volonté de Dieu pour moi. Mais ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Or, la Bible dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Ou bien la Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps, tu le retrouveras. Mais commence d'abord. Quand il y a aussi la parabole des mines, une mine d'information, comme je l'ai intitulé. Yeshua a donné un talent certain, 2, 3, 4, voilà. Il faut commencer à avancer, à fructifier. Quand tu commences, ah, le Seigneur va voir, ah, lui, il a la volonté, il est vraiment sérieux, il veut faire quelque chose. Allez, on lui donne encore plus. C'est comme ça, mon frère. Ce n'est pas de rester dans ta chambre et de prier la volonté de Dieu que tu vas faire un rêve ou bien que tu vas avoir une vision. Il y a certaines qui ont eu ça. Mais peut-être que ce n'est pas la voie par laquelle le Seigneur veut passer. La volonté de Dieu, peut-être comparée à un port. On peut l'aborder dans un angle différent. Mais ça reste la volonté de Dieu pour toi. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. D'accord, mes frères, revenons à l'Éternel Dieu. Commençons d'abord à lui obéir et il nous montrera la suite. Il dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. En cherchant le royaume et la justice de Dieu, la Bible dit, tout te sera donné par-dessus. Les gens disent, quel est mon ministère? Quel est mon ministère? Quel est mon ministère? Quel est mes dons? Chacun veut avoir un ministère grandiose. Ah, apôtre, oui. Oh, mes frères, apôtre, prophète, docteur, ça c'est des titres ronflants. Il y en a même qui alignent tout. Archevêque, bishop, surintendant, et quoi encore, archibishop, eux tous, ils ont tous les titres. Mais tu sais comment Dieu te voit, toi, avec tous tes titres là. Tu sais comment Dieu te voit? Nous étions tous des Barnabas. Barnabas se disait étant le Messie. Il avait tous ses titres, mais il a été emprisonné. Et à la veille de sa crucifixion, voilà, de sa punition, il a été sauvé in extremis par Yeshua, qui a échangé sa vie. De la même manière, toi qui m'écoutes, tu sais là où tu viens. Moi, je sais là où je viens. Comment je vivais avant d'avoir connu Yeshua. Je vivais dans le péché. Mais oui, j'étais un pécheur. Mais le Seigneur m'a fait grâce. En août 90, où j'ai quitté la religion pour venir à la relation. J'ai quitté la religion pour venir à la relation. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Venons tous à Yeshua. C'est lui que nous devons suivre, pas le séditieux. Hein? Barabbas, le faux Messie, le séditieux. C'est pas lui que nous devons suivre. Si nous le suivons, derrière lui, il y a l'ennemi de nos âmes. Derrière le faux Messie, il y a l'ennemi de nos âmes parce que dans le faux Messie, c'est qui s'est incarné? Le diable lui-même. Et les gens vont le suivre, les gens vont adorer l'anti-messie. Et ils vont adorer le diable pour la première fois. Lui va être, c'est ça, il rêve de ça, d'être adoré, d'être acclamé par l'humanité. Mais ce sera de courte durée. Parce que Yeshua va venir, Yeshua vient. Le faux messie ne tiendra pas longtemps. Au moins, pendant 7 ans, l'ennemi, le faux Messie va régner avec l'ennemi de nos âmes, va prendre en otage le monde entier. Mes frères et sœurs, si toi qui m'écoutes le message te parvient et que tu n'es pas encore né de nouveau, sache que le salut est venu auprès de toi. La Bible te dit dans Romains 10 que la parole est dans ta bouche. La parole est dans ta bouche, que si tu confesses le Seigneur Jésus, Yeshua, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et avec tous les bouleversements qui vont avoir lieu, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Alors invoque-le, va. Tu connais tes péchés, tu connais la vie de patachon que tu mènes, le mensonge, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Même toi, chrétien, tu sais là où tu es. Tu sais le commérage, la mauvaise langue sur les autres, la diffamation, le commérage, que tu parles mal des autres. Dieu connaît le projet de ton cœur. Puisque l'esprit sonde les cœurs. Il sait combien de fois tu as mal parlé de ton frère, de ton voisin, ainsi de suite. Hein? D'accord? Mes frères et sœurs, revenons à l'Éternel Dieu. Hein? Les temps seront difficiles, mes frères. Donc, comme Barabbas, voilà, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, vous savez, irreligieux. Combien on voit aujourd'hui avec l'explosion des réseaux sociaux, combien de moqueries sur les religieux. Il faut dire que certains pasteurs et prêtres ont fait de mauvaises choses. Hein. En tout cas, ils n'ont même pas le droit d'être appelés pasteurs. Les gens sont insensibles. Ça, c'est vérifié. On passe des vidéos, on agresse les gens. Les gens sont plus affairés, pressés à filmer que de porter secours. Qui sont déloyaux. Même les chrétiens ne peuvent plus leur faire confiance. Ils renient leurs paroles à chaque instant. Calomniateurs, intempérants. Ils ne peuvent même pas tenir tranquille, se tenir sur quelque chose. Hein? Ils sont versatiles, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, eu des saints n'y touche, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si on voit Barabbas, comme disait ici, ouais, il voulait sauver le peuple, ah oui, c'est loi, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais non, c'est Yeshua le vrai Messie, c'est Yeshua. Mais il est venu comme un brebis qui n'ouvre pas la bouche, qui se fait tondre. Voilà, malgré tout ce que Pilate lui-même a vu, tout ce que sa femme lui a dit, il a quand même laissé Yeshua être crucifié. Hein? C'est ça. C'est ça, ils l'ont fouetté. Yeshua a souffert pour vous et pour moi, mes frères et sœurs. Donc ne galvaudons pas son nom, ne galvaudons pas son sacrifice. Hein? Mais ce qu'il a souffert est énorme. Mes frères, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, mes frères et sœurs. Ce qu'il a souffert est énorme. Il était dans la détresse. Ses sueurs s'étaient changées en sang. Il était vraiment dans la tristesse. Et on l'a fouetté. On lui a craché dessus. C'est ce que les soldats ont fait. Verset, ma voix, c'était un peu. Le verset 27 à 31, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblaient toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements, lui mirent un manteau écarlate pour se moquer de lui. Manteau écarlate comme pour les empereurs romains. Ils tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et lui mirent quoi? Un roseau dans la main droite pour faire le sceptre du roi. Puis s'agenouillant devant lui, se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Le Créateur. Mais après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, le mirent, ses vêtements l'amenèrent pour le crucifier. Je pense qu'il y a un certain antisémitisme aussi dedans. Hein, il a voulu, non? Il a voulu, on va lui montrer à ce juif-là. Non? Je ne sais pas, c'est moi qui le dis. Mais bon, je le dis comme ça. Hein. C'est moi qui le dis. Voilà ce que les soldats romains ont fait. Aucun égard. Pour les, en plus, d'autant plus qu'il est juif, quoi. Ils l'ont maltraité aussi parce qu'il est, il est juif. Ben oui. Ils l'ont, il y a, je pense qu'il y a cette dimension qu'il ne faut pas négliger là-dedans, vu le comportement des soldats romains envers lui. Ben oui. Et ils ont pris Simon, un homme de Cyrène, Simon. Dit le noir, le Niger, Simon Niger, c'est lui, Simon Niger. Tu vois qu'ils ont donné encore, je sais pas, hein, bon, peut-être que je vois le racisme partout, mais bon, pourquoi ils ne l'ont pas donné à quelqu'un d'autre? Et c'est à Simon, le noir, à qui on remet la croix. C'est une grâce, hein. Pour lui de porter la croix, mais il le forçait. La Bible dit, le forçaire. Pourquoi ces lui sont allés vers lui? Hein? Je sais pas, hein? Moi, je soupçonne les soldats romains de ça, mais bon, je sais pas, hein? C'est un commentaire que je fais, hein? C'est un commentaire que je fais. Je pense qu'il y a, une dimension là-dedans qui, ça renifle un peu, quelque chose comme ça, hein? D'accord? Bon. Voilà. Donc, nous devons tous, en tant que disciples, également nous repentir. La repentance, ça se fait tous les jours quand l'Esprit Saint met l'accent sur quelque chose que nous avons fait. Tout ça, il met l'accent. Hein? Nous devons nous repentir. Mais toi, qui n'est pas encore né de nouveau, toi tu te repens, tu te convertis. Et après tu demandes le baptême. Le baptême d'eau et tous les baptêmes. Baptême d'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide et nous donne la grâce de rester fidèles à sa parole. En toutes choses, sachant que Yeshua est venu échanger sa vie contre la nôtre. Il est venu nous enrichir. Il a enrichi Barnabas. Il a prolongé sa vie. Comme il a prolongé ma vie, il a prolongé ta vie également. Je ne sais pas si je n'étais pas né de nouveau où je serais aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et je suis reconnaissant pour le Seigneur de m'avoir préservé. Mais oui, il m'a préservé. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas. Mais il m'a préservé. Il m'a gardé, je suis entre ses mains. Et si toi aussi, si tu écoutes ce message, si tu n'es pas encore né de nouveau, viens à Jésus. Tu as vu tous les péchés que j'ai listés tout à l'heure. Mais oui, dans 2 Timothée 3, 1 à 4. 1 à 4. Tu ne te retrouves pas dedans. Je ne sais pas. Hein. Si tu te retrouves dedans, qui que tu sois, va à Golgotha, va au calvaire, va au trône de la grâce, à notre Seigneur qui ne cesse de pardonner. Le pardon se trouve, il y a un psaume comme ça, David qui dit à l'Éternel Dieu, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Yeshua est venu échanger sa vie contre la nôtre. Il nous a enrichis, il a pris notre vie, il a pris notre jugement. Le jugement qui nous est destiné est tombé sur lui. Oui, est tombé sur lui. Afin que nous ne soyons plus condamnés. Voilà, mes frères et sœurs, que le Ténèbre nous bénisse et nous garde, hein, et nous donne la grâce. Mais vous allez peut-être me dire, comment naît-on de nouveau? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas naître de nouveau ou bien faire le pas de la foi s'il n'a jamais écouté la parole de Dieu et s'il n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus. Vous voyez, rencontré de différentes manières, en écoutant la parole de Dieu. Ou bien en ayant une vision. Il y a des musulmans qui ont eu des visions. Il y a même des musulmans, en lisant le Coran, ont reconnu que Jésus est le vrai Messie. Il y en a aussi des païens qui ont eu des visitations. Oui. Il y a eu des gens qui ont écouté la parole, qui sont nés de nouveau, ils ont été persuadés. Cette parole est comme un marteau qui brise le roc, comme un vent puissant qui balaie la poussière, mais oui, de notre cœur, comme un feu qui brûle tout ce qui jonche notre cœur, qui obstruit à ce que la parole de Dieu puisse y pénétrer. Hein? Voilà. C'est ça la parole de Dieu. Comme aussi un murmure qui murmure à notre esprit. Viens. Viens, viens à la croix, viens. C'est ça, mes frères. Comment est-on de nous? Donc la parole, tu rencontres la parole. Il faut savoir que Yeshua est la parole. C'est lui la vérité, Yeshua. C'est lui la vérité, c'est lui Jésus la vérité. Et il est la parole. Tu rencontres cette parole. Cette parole te demande que si tu renonces à ta vie, viens, viens, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois, accepte. Croire, c'est avoir confiance, mettre sa confiance dans ce que Dieu, l'Éternel Dieu dit. Dieu a dit, c'est la Bible qui le dit, oui, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprenez? Voilà. Et maintenant, tu fais acte de foi. Tu confesses tes péchés. Si tu confesses de la bouche, on dit que la parole est dans ton cœur, dans ta bouche. Tu confesses ton état d'impiété. Tu confesses ton état de perdition. Tu confesses tes péchés. Et tu demandes au Seigneur, maintenant, de devenir maître de ta vie, de devenir ton sauveur, et que tu abandonnes ta vie d'avant. Dans tous les cas, si tu es sincère, si tu es prêt, si tu veux vraiment faire le pas de la foi, l'Esprit Saint te guidera dans tout le processus. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, du nom du Seigneur, sera sauvé. Donc si tu l'invoques, tu seras sauvé. Invoque-le et tu seras sauvé. Et il te donnera un cœur nouveau. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un naît de nouveau? Je l'avais déjà dit. Que avant, lorsque l'homme animal, entre guillemets, reçoit ces informations de l'extérieur, de son corps, qui transite par son âme et qui va vers son esprit. Son esprit est nourri comme ça, de ses sens, Voilà, se nourrit de ses sens. Donc l'esprit devient rabougri. L'esprit n'a plus de contact avec l'éternel Dieu. C'est comme ça. L'esprit n'a plus de contact avec l'éternel Dieu. Or, lorsque quelqu'un naît de nouveau, c'est naître dans le royaume. Naître dans le royaume, c'est ça. C'est ça, naître de nouveau. Naître d'en haut. C'est là ce que cela veut dire. Voilà ce que cela veut dire. Donc, l'Esprit de Dieu vient réveiller, vient vivifier l'esprit de cette personne qui fait acte de foi pour naître de nouveau. Vient réveiller son esprit. Et maintenant, l'alimentation de son être va de son esprit vivifié vers son corps en passant par l'âme. L'âme n'a pas de structure propre. L'âme est née du contact entre l'esprit. On nous a dit que le Dieu souffla des esprits de vie. Pas dans l'original, c'est pas un esprit de vie, c'est un esprit des vies. C'est pas un esprit de vie, c'est un esprit des vies. Ce qui prouve l'existence de l'âme. C'est-à-dire que quand l'esprit est entré en contact avec le corps, ça a créé l'âme. Donc, l'alimentation de l'être se fait de son esprit vivifié, du chrétien ou bien de la personne qui est, du disciple, de la personne qui est née de nouveau. L'alimentation se fait de l'esprit vers l'extérieur, vers son corps. Ce qui fait que si l'esprit change complètement, si nous nous nourrissons de l'esprit de Dieu, de la parole de Dieu, nous produirons des fruits dignes de l'évangile. C'est ça, mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se nourrissent de quoi? Beaucoup de TikTok, de YouTube. YouTube, si on regarde des bonnes choses, ok. Ça, il y a pas de problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de certaines séries. Vous comprenez ça? C'est grave, ça. Ils regardent la série, même si c'est des séries pas bonne. Je me souviens qu'il y avait une sœur là, elle ne ratait jamais cette série Buffy contre les vampires. Je sais pas cela, à quoi cela servait, quoi. Quelle édification elle recevait de cette série, quoi. Buffy contre les vampires. Ah oui, mais vous pouvez tout faire. S'il y a cette série à la télé, c'est fini. Il n'y a plus de sœurs. Hein. C'est fini. Finito. Elle n'est plus là. Vous voyez, elle n'est plus là. Il y en a d'autres aussi, hein, qui, lorsque la série commence, il y a aussi des séries brésiliennes célèbres. Dona Beja, c'est ancien là maintenant. Je voyais des sœurs, on était à l'étude biblique, non, c'était un jeudi, je pense, délivrance. Et quand ça commence, oh, vous avez dans les rues, tout est désert, c'était à Lomé en ce moment-là. Tout était désert. Hein. Ça a commencé, tu vois, les gens qui couraient en sortant de l'étude biblique ou bien de la séance de guérison. Ils couraient à la maison et puis c'est fini. Vous voyez, il y a beaucoup de ces choses-là avant. Hein. C'est des souvenirs dont... qui me reviennent de temps en temps, vous voyez. Nous, aujourd'hui aussi, nous nous nourrissons de beaucoup de choses qui fait que nous sommes, je vais faire une étude là-dessus, tu es ce que tu manges, quoi. Tu es ce que tu manges, au fait. Si tu manges beaucoup de pâtes, beaucoup de patates, mais tu vas avoir de l'embonpoint. De la même manière, si tu ne manges pas, si tu ne nourris pas ton esprit avec la parole de Dieu, avec de l'édification, avec la prière, avec des exhortations, mais tu seras un nain spirituel. Tu vas maigrir spirituellement. Tu seras à la merci des Barnabas et autres, des faux messies et autres, de faux enseignements. Vous voyez, mes frères et sœurs. Voilà, j'ai dévié un peu hein, de l'étude, mais bon, voilà. Ça vient aussi des fois comme ça, mais on ne peut pas tout dire dans un seul message. Donc retenons tous que Barnabas était un faux messie et que le Seigneur Yeshua est venu échanger sa vie contre la sienne. Et que nous étions tous des petits Barabbas à qui le Seigneur a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. D'accord, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen et amen. Excusez-moi pour ma voix, mais bon, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais bon, rien de grave. Que Dieu soit loué. Amen.